Attention, attention. Programme spécial. Les ateliers de l'autre radio.
Bonjour amis auditeurs et auditrices, bienvenue dans les émissions Ateliers de l'autre radio. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024, toute fraîche. Puisse-t-elle vous apporter joie, fortune et surtout de bonnes ondes, bien sûr, à l'écoute de l'autre radio 101.7, 107.9. Pour nous, c'est reparti, deuxième partie de saison pour ces ateliers radio. Et nous sommes aujourd'hui au lycée Victor Hugo de Château-Gontier avec des premières. Une émission thématique consacrée aux médias et à l'information. Les jeunes décryptent pour nous nos habitudes médiatiques, le paysage médiatique français aussi, et le fonctionnement en général de l'information. Une émission, à mon sens, d'utilité publique. Allez, c'est parti, place aux premières. Belle écoute.
Bonjour à toutes et à tous. On vient du lycée Victor Hugo et aujourd'hui, on va vous présenter l'information dans le temps.
Du coup, on va commencer notre émission avec Soline, Léonie et Roman qui vont nous présenter une chronique sur le déclin de la radio et de la presse. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire de la presse. Comme vous le savez, ou peut-être pas, la presse débute au XVIIe siècle. À ce moment, elle est plutôt réservée aux personnes qui savent lire, la noblesse, le clergé et les intellectuels. Toutefois, en 1882, l'école devient obligatoire pour tous. Comme les gens apprennent à lire, à écrire et souhaitent s'informer, la presse fait donc une grande ascension. À cette époque, il existe différents types de journaux, comme les quotidiens, les gazettes et les journaux d'opinion. Le nombre de ventes explose et il faut produire une quantité importante de journaux. C'est pour cela que Richard Marquet invente l'imprimerie rotative au début du XXe siècle. C'est un système d'impression plus rapide qui permet donc de produire plus de journaux. Ainsi, en 1914, ils ont pu en imprimer 5 millions. La population s'intéresse de plus en plus à l'information. Et c'est alors que dans les années 1920, la radio arrive en France. Ce système d'information plaît beaucoup car la population peut entendre la voix des personnes importantes. Au début, ce sont des personnes plutôt aisées qui achètent des postes de radio. Ils se sont rapidement démocratisés et 10 ans après, la plupart des Français en ont. Elle est notamment utilisée durant la Seconde Guerre mondiale car la radio permet une information assez rapide, donc beaucoup de gens s'informent grâce à celle-ci.
Comme vous l'avez donc compris précédemment, la presse et la radio étaient les piliers de l'information. Mais alors, pourquoi la radio et la presse sont-elles dorénavant mises de plus en plus de côté? Eh bien, c'est notamment dû à l'arrivée des nouveaux moyens d'information. En effet, la télévision débarque en France grâce aux Américains. Ainsi, les Français commencent à s'en procurer massivement dès le début des années 60. Environ 10 ans plus tard, presque la totalité des Français en possèdent. Ce nouvel outil d'information plaît beaucoup aux téléspectateurs, car ils peuvent voir les grandes personnalités parler à la télévision, ce qui apporte une notion de vérité. C'est ainsi que commence le déclin de la radio et de la presse écrite. Mais ce n'est pas fini, car l'information est bousculée par l'arrivée des réseaux sociaux comme YouTube en 2005, suivi de TikTok en 2016, mais qui ne deviendra connu qu'en 2018. Sur ces réseaux, de nombreuses personnes, comme Hugo Décrypte, produisent de l'information. Celle-ci permet de s'informer d'où l'on veut et quand on le souhaite, elle est encore plus pratique que la radio ou la télévision. Les jeunes n'utilisent donc presque plus la télévision et encore moins la radio, ainsi que la presse écrite pour s'informer. De plus, la presse a su perdre la confiance de ses auditeurs. Par exemple, avec l'affaire Doutreau en 2000, les médias ont publié beaucoup d'informations non vérifiées. Ce déclin est donc lié principalement aux besoins de la population qui changent en fonction des générations.
Effectivement, les médias traditionnels ont connu une baisse importante liée à l'apparition des nouvelles technologies. Pour y remédier, ils essaient d'innover en essayant de toucher un plus large public. Par exemple, la vente des téléviseurs a subi une forte chute d'environ 15% en 2020. Mais pour y remédier, ils proposent des émissions toujours plus ludiques en cherchant l'attention de la jeunesse, avec de nouveaux concepts également toujours plus innovants. On peut désormais voir les nouvelles personnalités publiques ou encore les stars des réseaux sociaux à la télé. Par exemple, le youtubeur et tiktoker Hugo Décrypte diffuse depuis le samedi 28 octobre son émission Interview Face Cachée sur France 2. La presse écrite connaît aussi une forte baisse des audiences depuis l'arrivée des nouvelles technologies, mais essaie également d'innover. Ainsi, on peut désormais trouver des articles de Ouest France ou d'autres journaux en ligne. Mais ça ne s'arrête pas là. La presse écrite est aussi présente sur les réseaux sociaux. Les posts réguliers sur leur compte Instagram leur permettent d'obtenir un nombre conséquent d'abonnés. Le Ouest France en comptait 225 000 fin novembre. Les radios, quant à elles, essaient de maintenir leur nombre d'auditeurs. Tout comme la presse écrite, elles utilisent les réseaux sociaux. Par exemple, on peut trouver sur la plateforme TikTok des extraits d'émissions radio. La presse et la radio peuvent donc toujours intéresser. Il faut juste qu'elles se modernisent par rapport aux progrès d'aujourd'hui.
Et donc, on remercie les filles. Et tout de suite, nous accueillons Jean, Adriane et Nathanaël.
Bonjour.
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 Et donc, aujourd'hui, vous allez nous interroger sur comment on s'informe aujourd'hui sous la forme d'un débat.
Bonsoir à tous et bienvenue dans notre débat spécial. Ce soir, nous avons deux invités, Adriane et Nathanaël, pour discuter d'un sujet brûlant. Messieurs, merci d'être ici. Avant de plonger dans le vif du sujet, pourriez-vous brièvement vous présenter et exposer votre position sur la question qui nous réunit ce soir ?
Bonsoir Jean et merci de nous accueillir. Je m'appelle Adriane et je suis pour l'information grâce aux nouvelles technologies d'aujourd'hui. Je suis ici pour valoriser ces idées.
Bonsoir à tous, je suis Nathanaël et bien que je reconnaisse les avantages de la nouvelle technologie, je suis pour l'utilisation des médias traditionnels, je suis ici pour montrer mon inquiétude et montrer les défauts de cette nouvelle ère de l'information.
Dans un monde de plus en plus connecté, comment préférez-vous vous informer aujourd'hui ? À travers les médias traditionnels tels que la télévision, les journaux et la radio, ou privilégiez-vous les sources d'information en ligne, les réseaux sociaux et les plateformes numériques ? Adriane, à toi l'honneur de commencer ce débat.
Personnellement, je privilégie les moyens de s'informer en ligne, mais tout cela pour plusieurs raisons. Premièrement, les informations se transmettent largement plus vite et il y a énormément plus d'informations. Deuxièmement, cela va beaucoup plus vite pour s'informer avec des vidéos sur TikTok par exemple, car il y a des personnes qui parlent d'un événement de manière concise et claire. Mais sur Internet, de manière plus générale, il faut savoir où chercher et comment chercher pour être efficace et éviter tous les problèmes de fake news.
Eh bien, quant à moi, je préfère m'informer avec les médias traditionnels, car nous avons la sûreté des informations qui sont avancées. Deuxièmement, nous avons aussi un panel de médias et un panel de types de journaux sur tous les thèmes avec de nombreux points de vue. Mais suite à ce que vous dites, je suis obligé de démanteler vos arguments. Tout d'abord, vu que sur les réseaux sociaux, l'information est horizontale, nous n'avons donc aucune sûreté de la provenance et de la validité de ces informations. Ensuite, pour bien s'informer sur Internet, qui est un moyen extrêmement vaste pour se ressourcer, les utilisateurs sont obligés d'avoir des connaissances, ce qui n'est pas le cas des médias traditionnels.
Je vous comprends totalement, Nathanaël, mais nous pouvons constater que plusieurs de ces journaux sont venus sur Internet, et cela pour une raison, car c'est le futur de l'information, et qu'ils sont obligés de suivre cette vague pour rester dans la course et de s'acclimater aux tendances d'aujourd'hui. L'information sur Internet est plutôt jeune, ce qui permet une diversité des sources. Cet accès facile permet une multitude de sources provenant du monde entier et donc une diversité d'opinions et de perspectives qui, comparées aux médias traditionnels, peuvent être biaisées ou limitées.
Les médias traditionnels ont souvent plus de ressources pour mener des enquêtes approfondies et fournir une analyse approfondie des événements. Cette profondeur de couverture peut manquer dans le format plus court et instantané des informations sur Internet. Pas vrai, Adriane ?
Effectivement, cependant, l'accès des ressources variées, une interaction entre plusieurs internautes, certaines co-créations de contenu, cet accès abordable facilement permet une personnalisation de son flux d'actualité en fonction des intérêts de l'utilisateur. Je trouve ce côté de l'information horizontale vraiment pratique et ouvre une très grande porte aux générations futures.
Merci à vous de votre participation. Il est évident que les préférences en matière d'information varient considérablement en fonction de nombreux facteurs. Certains privilégient les médias traditionnels pour la confiance qu'ils accordent aux institutions établies et à la qualité journalistique proposée. D'autres optent pour les médias contemporains en raison de leur rapidité et de leur diversité avec les réseaux sociaux, bien sûr. Il est important de reconnaître que chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Cela est aussi une question de goût.
On remercie donc les garçons et maintenant, on passe à une chronique présentée par Jeannin et Antoine. Bonjour.
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 Comme vous le savez, l'information depuis une dizaine d'années est diffusée en permanence. Nous nous demandons comment l'information en continu impacte l'opinion publique.
C'est dans les années 90, c'est LCI, lancé par TF1, qui a inauguré ce type d'offre en France le 24 juin 1994. L'information permanente est l'idée que l'information est constamment disponible et accessible aujourd'hui grâce aux technologies de l'information et de la communication. Nous sommes constamment entourés d'informations provenant de diverses sources telles que les médias, Internet et les réseaux sociaux.
Mais comment l'information est-elle devenue permanente ?
Elle est permanente notamment grâce à l'évolution des technologies. Une information publiée reste accessible à tous. Les plateformes de médias sociaux ont contribué à rendre l'information omniprésente. Les utilisateurs partagent constamment des nouvelles, des opinions, des contenus, créant ainsi un flux continu d'informations. Les médias en temps réel, tels que les actualités diffusées sur Internet, fournissent des mises à jour constantes sur les événements du monde entier.
La recherche d'instantanéité cause-t-elle la perte de profondeur de l'information ?
Oui, en effet Nino, car par exemple sur BFM TV, L'émission met en avant les plateaux plutôt que les enquêtes approfondies sur le terrain pour réduire ses coûts de production et faire plus de bénéfices. Ça engendre une perte de qualité dans l'information donnée.
Est-ce que l'information diffusée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est en danger ?
Les médias doivent donner une information le plus vite possible pour être le premier sur l'information. Malheureusement, oui. Il y a plusieurs dangers, comme la propagation de fausses informations à cause de manque de vérification donnée. Ces informations doivent être propagées rapidement, provoquant parfois des préjudices.
On peut donc en conclure que la diffusion permanente de l'information est une réponse à la demande d'instantanéité et de pertinence dans un monde de plus en plus connecté. Cependant, il est important de rester conscient de la nécessité d'une consommation d'informations équilibrée et critique pour éviter une saturation d'informations.
Et donc maintenant, nous accueillons Mélanie, Léonie et Paloma. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du temps qu'on passe à s'informer.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, s'informer est devenu une priorité afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Qu'on soit jeune ou plus âgé, avez-vous déjà pensé au temps passé quotidiennement à s'informer ?
Les Français passent en moyenne 3% de leur temps sur Internet sur des sources d'informations en ligne, soit presque 5 minutes par jour de connexion, d'après la Fondation Descartes.
Puisque nous avons trouvé peu d'informations sur le sujet, nous décidons d'approfondir cette question. Pour cela, nous avons récolté des informations à la source en vous interrogeant.
Les questions posées sont les suivantes. Combien de temps par jour passez-vous à vous informer ? Jugez-vous que s'informer est réellement important dans votre quotidien et selon vous, pourquoi ? Quel support utilisez-vous ? Grâce à vos réponses, nous avons pu faire un bilan de chaque tranche d'âge.
Tout d'abord, nous avons décidé d'interroger 5 jeunes de 16 à 25 ans. Nous avons pu constater qu'ils passent en moyenne 30 minutes à s'informer par jour. Deux d'entre eux ne s'informent pas spécialement tous les jours, car ils ont l'impression que cela ne leur est pas utile. Cependant, les trois autres reconnaissent que c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe en France afin de mieux comprendre les enjeux politiques et géopolitiques.
Nous avons ensuite interrogé 6 autres personnes, mais cette fois-ci des adultes de 30 à 55 ans. Nous avons remarqué qu'ils passent en moyenne 1 à 2 heures par jour à s'informer. 4 d'entre eux nous expliquent que s'informer est principalement pour avoir une culture générale, éviter les fake news et de comprendre certaines décisions comme celles de l'État. Et les deux derniers nous précisent qu'être au courant de l'actualité permet de créer du lien social et ainsi enrichir les conversations.
Pour terminer, nous avons interpellé 6 personnes âgées se situant entre 60 et 90 ans. Nous avons appris que les personnes âgées s'informent en moyenne 3 à 4 heures par jour. Les 6 nous expliquent que s'informer permet de se divertir tout en apprenant des choses. Cela est devenu une habitude pour eux et ainsi une routine s'est créée.
S'informer n'est pas une habitude pour tous. Certains n'y apportent aucune importance. Cependant, grâce aux personnes interrogées, nous avons pu constater que les personnes âgées s'informent davantage que la nouvelle génération.
Il est vrai que chez les personnes âgées, s'informer est normal et inné. Par exemple, lors des repas comme le déjeuner ou le dîner, en bruit de fond, il peut y avoir la télévision qui est sur une chaîne d'information ou encore un poste radio qui diffuse les actualités du jour.
Plus les générations avancent, moins la population semble porter de l'importance à l'information. Le temps que l'on passe à s'informer diminue de plus en plus, notamment parce que l'accès à Internet sur les smartphones nous permet d'avoir l'actualité très rapidement et très clairement.
Donc merci à vous Paloma, Mélanie et Léonie pour cette très bonne enquête. Tout de suite, on va se quitter pour une petite pause musicale et l'émission reprend plus tard avec plusieurs sujets très intéressants comme la hiérarchie de l'info ou les grands patrons de presse. Donc tout de suite, c'est Lizzo Boys sur l'autre radio.
Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit puppy. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys.
Baby, I don't need you.
I don't need
you. I just wanna freak you.
I want it,
yeah. I heard you a freak too.
That's right.
What's 2 plus 2?
Three, two,
one. Boy,
C'était Lizzo Boy sur l'autre radio.
À présent, nous avons été rejoints par Elle, avec qui Éoline et moi allons présenter une chronique sur comment marche la hiérarchie de l'information.
Eh oui, la hiérarchie de l'information. Quand vous entendez ce terme, vous devez certainement vous demander ce que c'est. C'est vrai qu'on n'entend pas cette expression très souvent, et pourtant, vous savez de quoi il s'agit. C'est la façon dont les journalistes classent l'information de la plus importante à la moins importante. Ils peuvent donc décider quelle place accorder à cette info et le temps qui lui sera consacré. Mais alors, comment est-ce que ça marche ?
Tout d'abord, cette hiérarchie doit se conformer à différentes lois. C'est la loi de proximité qui remporte la palme d'or en termes d'importance dans la hiérarchisation. Cette loi, elle va se diviser en plusieurs sous-catégories, comme la proximité géographique. Elle se traduit par l'importance que l'on donne aux informations locales par rapport aux événements à la plus grande échelle. Cela réveillera la sensibilité de vous, les auditeurs, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Ce qui amène notre seconde règle de proximité, celle d'opinion. Les médias privilégient toujours les informations qui vont le plus impacter leur public. Ensuite, abordons la règle de temporalité, qui consiste à présenter des faits proches dans le temps. Celle-ci va parfois être écartée par la règle d'information exceptionnelle qui va pouvoir émouvoir et surprendre plus facilement l'audience. Par exemple, le décès d'une personnalité populaire comme Michael Jackson peut encore aujourd'hui être mis en avant par rapport à des faits d'actualité. En fin de compte, ces lois vont constituer la carte d'identité de l'information. Ainsi, l'orientation du sujet va différer quant à la façon de le traiter. C'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale.
Cependant, il est important de distinguer le fait et le traitement du sujet. Effectivement, selon le média, il ne va pas être choisi de la même façon et plusieurs médias peuvent parler d'un même sujet sans forcément le traiter de la même manière. Donc retenez bien, il ne faut surtout pas les confondre. Maintenant que tout a été dit, vous êtes au point sur la hiérarchie de l'information. On remercie Elle et nous on reprend nos rôles d'animateurs.
Et donc maintenant, pour aller plus loin que ce que l'on vient de vous dire, nous retrouvons Roman, Ellie et Théodora pour une suite.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Notre chronique du jour va porter sur comment s'informe-t-on aujourd'hui, en particulier comment une information est choisie. Je te laisse commencer, Théodora, par nous présenter les différents journaux.
Tout d'abord, il est vrai, en France, on a des différents journaux, comme les journaux politiques qui sont axés sur un parti politique, en particulier par la ligne éditoriale. C'est-à-dire que leur façon de divulguer l'information va s'associer à une idée politique. Et il y a par exemple le Figaro qui reflète les idées de droite, Libération et le Quotidien qui représentent les idées de gauche et Leur Avis qui est un journal libre, de centre. Mais il en existe d'autres qui sont moins connus. Avoir des journaux qui sont axés sur une population ou sur un parti politique permet d'intéresser le spectateur et lui proposer des informations qui vont lui parler et auxquelles il va s'attacher. Mais cependant, la presse nous fait part de d'autres journaux et je vous laisse Roman nous en parler.
Alors oui, bien sûr, aujourd'hui en France, nous proposons un grand nombre de journaux pour qu'on puisse s'informer. Et tous ne vont pas exprimer la même chose, proposer la même chose ou encore avoir le même point de vue. On a donc des journaux régionaux, comme le Ouest France pour l'Ouest de la France comme son nom l'indique, l'Est Républicain pour l'Est de la France, la Provence et pour le Sud du côté de Marseille, Montpellier et Nice, le Sud-Ouest pour Toulouse ou encore Bordeaux, et la Voix du Nord pour le Nord. Ces cinq journaux ont pour but de localiser l'information et le spectateur. C'est ce qu'on appelle la loi de proximité. Mais qu'est-ce que c'est la loi de proximité ? Ellie, est-ce que tu peux nous l'expliquer ?
Alors, la loi de proximité, c'est très simple. C'est le principe suivant lequel les informations ont plus ou moins d'importance selon leur proximité par rapport au lecteur. Cette proximité est généralement décomposée en quatre axes : géographique, temporel, effectif et sociétal ou socio-professionnel. C'est-à-dire qu'une information dans le nord de la France va moins intéresser ceux qui sont dans le sud que ceux qui habitent à proximité du fait divers. Ou encore une information d'il y a 20 ans intéresse moins la nouvelle population. Lors d'un accident, plus le nombre de victimes est conséquent, plus l'information va être divulguée en France. Et puis, une célébrité mondiale va plus facilement faire polémique qu'une personne qu'on ne connaît pas. La loi de proximité permet aussi d'influencer la réputation d'une commune. Je laisse Roman nous en parler.
En effet, une commune peut être valorisée ou dévalorisée, c'est-à-dire que l'information peut être d'un événement chaleureux et touristique, ce qui va donc amener des visiteurs, ou à l'inverse, les repousser dû à un tragique événement. Mais la divulgation d'une information est émise en fonction de l'angle. C'est la façon dont le journaliste va traiter le sujet et ce qui déterminera le plan de l'article et donc décider de ce que le spectateur va entendre comme information et permet de décider le regard que celui-ci va porter sur le sujet.
Alors voilà, vous savez tout maintenant. Je vous remercie les filles d'avoir partagé vos connaissances et nous vous remercions de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Merci les filles, et maintenant nous accueillons de nouvelles chroniqueuses qui vont nous parler des grands patrons de presse. Mathilde, Candice, c'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans la nouvelle chronique du jour, Rachat et révélation, les secrets des grands patrons. Dans le monde complexe et dynamique des médias, les grands patrons de presse se distinguent par leur influence. Deux figures marquantes, Robert Hersant et Vincent Bolloré, ont conçu l'univers médiatique français en rachetant des journaux. Mais qu'est-ce qui pousse ces patrons à investir dans l'industrie de l'information ?
Concernant Robert Hersant, c'est un mania de la presse dans les années 1970 et 1980. Il était célèbre pour avoir acheté massivement des journaux régionaux. L'homme d'affaires a compris très tôt que le pouvoir de l'information ne se trouvait pas seulement dans la capitale, mais aussi dans les différentes régions du pays. En achetant ses journaux locaux, il renforçait son contrôle sur la diversité des opinions en France. Son but était simple, influencer l'opinion à l'échelle nationale en dominant le discours régional.
Aujourd'hui, un autre mania du monde médiatique le succède, Vincent Bolloré. En effet, Vincent Bolloré fait plus ou moins la même chose. En tant que mania des médias et homme d'affaires, il a compris lui aussi que la possession des médias est un pouvoir considérable concernant la politique et la société. Le rachat de Canal+ et du groupe Vivendi lui a permis d'élargir son influence médiatique. Il a aussi Hachette, qui est le premier éditeur de France. Il cherche à diversifier les activités de son entreprise. Sa méthode est d'arriver dans les entreprises sous-évaluées, perturber la direction, puis en prendre le contrôle ou en tirer du profit.
Reprenons notre problématique. Pourquoi les manias de la presse rachètent-ils les journaux ? Ils rachètent les médias pour obtenir du pouvoir et de l'influence. En possédant les médias, ils peuvent contrôler ce qui est dit, attirer l'attention sur certaines idées et influencer l'opinion publique. Cela peut également servir leurs intérêts économiques et politiques. Cependant, beaucoup de gens s'inquiètent sur cette concentration du pouvoir dans les médias. Ils craignent que la variété des opinions dans les médias disparaisse parce que les grands chefs des journaux imposent leur propre point de vue.
Merci de nous avoir écoutés.
Donc on remercie les filles et maintenant nous accueillons Julia, Ellie et Jade. Et vous, donc aujourd'hui, vous allez nous parler de l'information et le milieu social.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons vous présenter l'orientation des médias face aux différentes classes sociales qui sont ciblées de différentes manières. Pour comprendre celle-ci, nous expliquerons d'abord pourquoi et comment cibler, comprendre sa cible et enfin, par quels moyens cible-t-on.
Mais rappelons d'abord que les médias jouent un rôle essentiel dans la société en France. En effet, leur orientation face aux différentes classes sociales est un sujet d'une importance cruciale. Leur influence sur la perception publique de ces classes, leurs intérêts et leur réalité est très complexe et est souvent sujette à débat.
Nous l'avons vu, les classes sociales regroupent des individus qui partagent des caractéristiques similaires, telles que le revenu, l'éducation, la profession et le niveau de richesse. Cependant, on peut remarquer que certaines classes sociales ont généralement des intérêts communs. C'est pour cela que les médias ciblent un public, pour, premièrement, atteindre leurs objectifs commerciaux. En effet, certains dépendent de différentes sources ou de partenariats, tels que les abonnements, les publicités, et chacune de ces sources nécessite un public différent. Par exemple, les publicités, elles, visent un public spécifique pour maximiser leurs profits. Deuxièmement, pour atteindre leurs objectifs éditoriaux. Certains médias ont des objectifs précis comme informer, éduquer, divertir ou promouvoir des valeurs. Ils cherchent un public qui est susceptible de soutenir ces objectifs. Également, certains cherchent à se positionner sur le marché de l'information comme une source de qualité, divertissante ou spécialisée, en ciblant un public qui correspond à cette image. Troisièmement, c'est aussi pour atteindre leurs objectifs sociaux. Certains médias influencent l'opinion publique et encouragent les changements sociaux. Ils choisissent un public qui sera ouvert à leurs idées.
En résumé, le ciblage du public par les médias est une stratégie essentielle pour atteindre leurs objectifs, qu'ils soient commerciaux, éditoriaux ou sociaux. Cela implique de comprendre les caractéristiques du public visé et d'ajuster le contenu en conséquence pour maximiser l'efficacité et l'impact. Concernant la catégorie supérieure, l'accent est mis sur les aspects économiques tels que les investissements et la gestion de la richesse, ainsi que sur le style de vie luxueux couvrant des sujets tels que les voyages exclusifs et la mode haut de gamme. Au niveau des catégories moyennes, les médias se penchent sur des thèmes comme la gestion du budget familial, les conseils financiers, le divertissement grand public et les loisirs abordables.
Quant aux catégories inférieures, les médias mettent en avant les enjeux sociaux comme la pauvreté, l'éducation et se concentrent sur l'emploi, le développement local et les défis économiques auxquels font face ces communautés.
Les médias adaptent leur approche envers leur public en fonction de divers facteurs, tels que le statut et les caractéristiques démographiques. Ils analysent des éléments tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et le revenu pour créer un contenu adapté à des groupes spécifiques. En plus de ces données, les médias examinent les attitudes, les valeurs, les intérêts et les comportements de leur auditoire afin de comprendre les motivations individuelles. Les médias utilisent également les réseaux sociaux pour interagir directement avec leur public, obtenant ainsi des modèles de comportement et des informations sur les préoccupations et les intérêts du public. Pour les médias financés par la publicité, les stratégies publicitaires sont cruciales. Les annonceurs choisissent des médias en fonction de leur audience cible, incitant ces derniers à adapter leur contenu pour attirer ces annonceurs. De plus, les médias peuvent segmenter leur public en groupes plus petits, leur fournissant un contenu adapté à leurs besoins spécifiques. L'objectif ultime des médias est de maximiser leur influence en proposant un contenu qui résonne avec leur public cible, en utilisant des méthodes adaptées au type de médias, à la plateforme et aux objectifs spécifiques.
Ainsi, l'orientation des médias envers les différentes classes sociales répond à une stratégie essentielle pour atteindre les divers objectifs, qu'ils soient commerciaux, éditoriaux, sociaux. Cette démarche consiste à comprendre les caractéristiques du public visé et ajuster le contenu en conséquence pour maximiser l'efficacité et l'impact.
Les médias s'adressent aux classes sociales en raison de leurs préférences, de leurs valeurs et de leurs attentes distinctes. Alors, cette adaptation contribue à façonner la perception publique des réalités sociales variées.
Donc merci les filles pour cette chronique très enrichissante et maintenant vous allez écouter Born at Midnight de Yoy sur l'autre radio. Better start acting like I was born at midnight every time.
C'était Yoy sur l'autre radio, et maintenant, souhaitons la bienvenue à Aubin et Gaspard pour une chronique slash micro-trottoir sur l'info et l'âge.
Du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, les moyens d'information ont énormément évolué au fil du temps. Nous allons donc nous demander aujourd'hui, mais qui nous écoute, quelle classe d'âge et quels sont leurs médias favoris?
Nous avons interrogé plusieurs personnes de différentes classes d'âge. Pour ainsi connaître leurs moyens d'information préférés, on va se concentrer sur les plus de 35 ans, mais ne vous inquiétez pas les jeunes, on ne vous oublie pas, on reviendra sur vous dans un autre sujet. Nous nous intéresserons tout d'abord aux personnes de 35 à 44 ans. Nous avons interrogé 3 personnes à notre micro, voici leurs réponses.
Les médias d'information que j'utilise parfois, la radio, la télévision principalement, la radio pour le côté pratique car je me déplace beaucoup, je suis souvent en véhicule. En ce qui concerne la télévision, c'est le soir, les journaux télévisés, ou diverses informations, divers débats ou émissions de télévision. Tout ce qui est réseaux sociaux, j'évite parce que j'ai peur des fake news et je pense que ce ne sont pas forcément des bons médias. Après avoir à trier selon ce que l'on peut voir et commettre.
Oula, malheureusement, vu les informations actuelles, on a tendance plutôt à les fuir. Moi, je scrolle beaucoup, donc je regarde sur mon portable Facebook, voilà, les publications qui arrivent assez facilement sur nos écrans. C'est plutôt rapide, facile d'accès, on peut l'en regarder depuis les transports en commun, les choses comme ça. C'est des moments un petit peu perdus où on va prendre le temps de regarder les informations qui sont publiées. Voilà.
Je vais vous poser une question, c'est comment vous vous informez aujourd'hui ?
Bonjour, je m'informe via la presse télévisée, donc le journal de 20h par exemple, la radio, sur internet aussi, et enfin le journal, la presse écrite.
Et pourquoi ces méthodes ?
Plusieurs types d'informations sont nécessaires pour bien comprendre l'information. Après, le journal télévisé, c'est facilement accessible. Les moyens numériques sont facilement accessibles également. Après, la presse papier et presse se ressemblent beaucoup finalement sur Internet. Et puis la radio, c'est facile d'accès dans la voiture.
Et pour finir, on vieillit encore un peu plus avec l'interview de trois personnes de la cinquantaine.
J'utilise Le Monde version numérique.
Ok.
C'est-à-dire que je suis abonnée et j'ai des notifications qui arrivent et je vais voir ce média-là d'abord. Après, j'utilise quasiment plus la presse papier. C'est pratique.
C'est plus pratique.
Ah oui, je regarde le 20h aussi. Oui, parce que c'est pratique.
J'utilise les journaux, la radio le matin quand je prends ma voiture pour venir au travail et un petit peu les réseaux sociaux. J'ai découvert Instagram et que les radios diffusent aussi des petites
podcasts,
oui,
des chroniques.
Okay. Donc j'utilise ça. Alors Le Monde, parce que moi je suis du 20e siècle, donc les journaux pour moi c'est très très important. Et la particularité c'est qu'on peut revenir. C'est-à-dire en ayant un petit peu de recul, revenir sur ce qu'on a lu. Hein, que ne peut pas faire la télé ni la radio.
Alors bonjour.
Bonjour.
Je vous demandais du coup comment vous informer aujourd'hui ? Par quels moyens ?
Il y a plusieurs moyens. Je m'informe par le journal écrit et après l'internet souvent. Puis à la radio de temps en temps quand j'écoute la radio.
Pourquoi ça en particulier ?
Journal écrit parce qu'on est abonné depuis des années pour les nouvelles locales. Puis plus que ce qui est national, c'est plus Internet, parce que c'est rapide sur le smartphone. Voilà. Et puis à la radio, des fois qu'on est sur la route, on écoute la radio, donc on a des informations comme ça.
En effet, nous pouvons voir avec l'aide de ces plusieurs personnes que l'un des médias les plus utilisés par toutes les classes d'âge est en partie Internet, 39% en moyenne pour les usagers de plus de 35 ans, selon une enquête de Reuters Institute réalisée auprès de 70 000 personnes. Car cela notamment est plus pratique que les versions papier qui encombrent de trop. Néanmoins, Internet permet d'avoir des informations directes et plus rapidement, même si elles ne peuvent pas toujours être fiables. Cependant, il y a toujours une présence du journal papier, mais moins présente qu'avant. 8% des utilisateurs mondiaux sur cette classe d'âge l'utilisent quotidiennement.
De plus, nous nous sommes rendus compte que notre cher média est effectivement assez peu écouté par les locaux. Seulement 7% des personnes dans le monde s'informent grâce à la radio. Elle est écoutée effectivement plutôt pendant les trajets en voiture. Enfin, nous avons la télévision qui occupe une grosse part des sources d'information, avec environ 44% des personnes qui l'écoutent ou la regardent chaque jour. On peut différencier deux méthodes d'information, le continu qui diffuse non-stop de l'information, ou encore le journal télévisé quotidien à l'heure du déjeuner ou du souper. Voilà, on en a terminé avec les chiffres, on vous rend l'appareil Éoline et Nino.
Gaspard Aubin, merci à vous. Et on accueille tout de suite Fantine, Maya et Mona, qui vont parler du même sujet que les garçons, mais cette fois-ci spécialement sur les jeunes et l'info. Bonjour les filles.
Bonjour.
De nos jours, il n'a jamais été aussi facile de s'informer dans notre société.
En effet, aux médias de la presse écrite sont venus se rajouter la radio, la télévision, mais surtout Internet. Vous vous informez à la radio et peut-être aussi sur d'autres médias, mais vous êtes-vous déjà demandé comment les jeunes s'informent aujourd'hui ? C'est la question à laquelle nous allons répondre grâce à un micro-trottoir.
Bonjour, j'ai 16 ans, je m'informe grâce à TikTok, Brut et Hugo Décrypte.
J'ai 29 ans et je m'informe par la radio le matin et je regarde également les informations le soir.
Bonjour, j'ai 26 ans. Moi, je m'informe grâce aux réseaux sociaux sur mon téléphone.
J'ai 29 ans et je m'informe en lisant et au réseau.
Bonjour, j'ai 19 ans et je m'informe sur TikTok grâce à Hugo Décrypte ou alors sur Twitter.
Comme vous venez de l'entendre dans notre courte enquête, les jeunes de 15 à 30 ans s'informent principalement sur les plateformes en ligne ou les réseaux sociaux. Une étude de la Direction Générale des Médias des Industries Culturelles a montré qu'au grand étonnement de l'opinion publique, les jeunes s'intéressent beaucoup à l'actualité. 93% disent s'intéresser aux informations, 15% sont accros à l'information et seuls 7% des jeunes affirment ne pas s'intéresser à l'actualité. En effet, des études réalisées cette année par l'INSEE ont démontré que 94% des 15-30 ans possèdent un smartphone en 2021. C'est donc grâce à cet outil qu'ils se tiennent informés. Il leur arrive aussi de regarder leur journal télévisé avec leurs parents, même si les réseaux sociaux restent la plateforme la plus utilisée pour les jeunes pour accéder à l'actualité. Et oui, les études de CIDJ montrent que 73% des 15-30 ans utilisent YouTube, Instagram et TikTok pour s'informer au quotidien, ce qui les place au premier rang des sources de l'information des jeunes.
Mais pourquoi les jeunes privilégient ces moyens pour accéder à l'actualité ? Un accès à l'information quand on veut, où on veut, des informations courtes, faciles à lire et à comprendre, c'est tout ce que les jeunes veulent en s'informant par les biais des réseaux sociaux. Ça, les grands médias l'ont compris et ont investi dans TikTok pour y diffuser les actualités, comme le mouvement hashtag Black Lives Matter en 2020, la crise du Covid en 2019, mais aussi la guerre en Ukraine en 2022. Il y a aussi Brut, Loopsider, Konbini et Mediapart, qui eux sont des médias pure players dont les contenus courts, en vidéo, abordent des sujets sociétaux en lien avec les préoccupations des jeunes de 18 à 25 ans. Les formats vidéo, souvent réalisés par des influenceurs, sont très appréciés des jeunes et suscitent le plus d'interactions. Par exemple, Hugo Décrypte, aujourd'hui présent sur Instagram, Twitch et TikTok, traite chaque jour de l'actualité dans un format court où il vulgarise l'information politique et internationale en donnant un regard et un ton décalé que les jeunes aiment beaucoup.
Alors, ce que l'on doit retenir, c'est que les jeunes de 15 à 30 ans s'informent principalement par le biais des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, en laissant de côté la presse écrite mais aussi la radio et les journaux télévisés. Ils privilégient ces plateformes parce qu'ils veulent s'informer rapidement, quand ils veulent, avec des informations courtes et essentielles. Donc on remercie les filles, et maintenant nous accueillons Romane, Océane et Léa, et donc aujourd'hui vous allez nous parler des IA, des fake news et de l'infobésité.
Aujourd'hui, nous sommes constamment confrontés à des informations via les réseaux sociaux, la presse, la télévision ou la radio. Ce phénomène est celui des mass médias. En effet, il y a une surabondance d'informations imputées aux chaînes d'information en continu, comme BFM TV, aux nouvelles technologies de la communication, que ce soit Internet ou sur les téléphones portables, les messageries et les réseaux sociaux, et à la dépendance qu'elles créent chez l'utilisateur. Mais connaissez-vous réellement l'impact des nouvelles technologies ?
En effet, ces nouvelles technologies qui entrent notre quotidien sont bien évidemment les réseaux sociaux, comme Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, WhatsApp et bien d'autres. Mais d'après la source de Sophie Turpo, Facebook détrône toutes les autres applications, avec plus de 2 740 millions d'utilisateurs. C'est donc une personne sur quatre qui possède Facebook. Ces plateformes virtuelles permettent l'envoi de messages, la communication en temps réel et la diffusion de contenu de différentes manières entre utilisateurs. C'est pourquoi il existe des diffuseurs d'informations, comme Hugo Décrypte, avec ses 3 millions d'utilisateurs sur Instagram. Il va attirer principalement les jeunes, car il publie des informations brutes, rapides, qui vont à l'essentiel. En général, les réseaux sociaux favorisent la création de groupes de personnes qui vont rester sur leur opinion, leur vision, et vont porter peu d'intérêt à ceux qui vont à l'encontre de celle-ci. En conséquence, ces communautés ne favorisent pas l'échange et l'argumentation, ce différent point de vue.
Les progrès technologiques ont permis d'améliorer nos conditions de vie. Il y a aussi un impact important sur les aspects fondamentaux de nos cultures, des lois et de leur application, la langue, les arts, les soins de santé, la mobilité, l'éducation et la religion. Les avancées technologiques ont aussi permis aux médecins de traiter leurs patients virtuellement grâce aux vidéoconférences et aussi ont aidé dans l'environnement juridique en permettant aux juges d'écouter les criminels qui ne sont pas autorisés à entrer dans les salles d'audience. Malgré tout ça, il y a quand même des points négatifs. comme un impact négatif sur la croissance de l'économie. La télévision consomme parfois toutes les heures de productivité d'un homme dans une journée. Chaque nouvelle technologie arrive sur le marché avec des conséquences à long terme imprévisibles. D'après une étude chez les 18-24 ans, 51% avouent qu'il leur serait difficile de se détacher des médias sociaux.
Évidemment, cet impact n'est pas sans conséquence. Nous sommes passés d'une information verticale à une information horizontale. Notre cerveau est constamment en contact avec l'information, ce qui crée dans celui-ci une surabondance. Lorsque l'on se rend sur un site internet, nos données confidentielles sont souvent divulguées lorsqu'on accepte les cookies d'utilisation. Les images sont aussi dégradées, notamment avec l'apparition de l'intelligence artificielle, plus souvent connue sous IA, et les nouvelles technologies informatiques. Il y a aussi un manque de productivité chez l'homme. Pour les éviter, il faut qu'on comprenne et qu'on conserve uniquement les informations qui nous sont utiles, qu'on définisse nos besoins en fonction de nos centres d'intérêt. Il faut donc trier les informations. Il faut aussi faire bon usage des outils numériques et éduquer les jeunes contre la désinformation, les fake news et l'IA.
En effet, une nouvelle technologie est apparue, innovatrice, avec de grands projets et avantages. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle, souvent appelée l'IA, qui désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Cette nouvelle technologie n'est pas sans conséquence sur le monde de l'information. En plus de menacer la situation de l'emploi et les conditions de travail, l'IA peut créer de la fausse information. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait croire qu'une image était une preuve. Aujourd'hui, les faits et la réalité peuvent être différents. C'est pourquoi l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux amplifient la formation de fake news en se répandant plus massivement.
Léa, Roman, Océane, merci à vous. Et tout de suite, on souhaite la bienvenue à Justine, Juline et Lise.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler des fake news et de leurs problèmes. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une fake news ? Pour répondre à nos questions, nous allons interviewer Madame Mello, enseignante d'histoire-géographie au lycée Victor Hugo. Bonjour Madame, merci de bien avoir voulu nous faire part de votre présence pour cette interview. Et merci pour vos réponses qui, je n'en doute pas, vont permettre à nos auditeurs de mieux comprendre le monde qui les entoure. Tout d'abord, pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer ce qu'est une fake news ?
Oui, bonjour à tous. Eh bien, en général, une fake news, est une fausse information qui est diffusée dans les réseaux sociaux, dans les médias.
Par quels médias peut-on être touché par les fake news ? Quels médias comportent le plus de fake news, d'après vous ?
Alors d'après moi, ce sont surtout sur les sites diffusés par le Internet et parfois à la télévision.
Quel public a le plus de chances de voir des fake news et est-ce que le public en question est perméable aux fake news ?
En général, c'est un public varié, mais ceux qui n'ont pas accès à l'information par eux-mêmes et qui regardent les réseaux sociaux ou parfois des télévisions locales peuvent être amenées à recevoir des fake news.
Et pour finir, d'après vous, quelles conséquences peuvent avoir les fake news ?
Des conséquences désastreuses, de la désinformation en général, c'est ce qui revient le plus souvent.
Merci madame pour vos réponses. Maintenant, pour en savoir un peu plus sur les fake news, notamment au niveau statistique, je vais laisser la parole à Justine.
Comme nous l'a expliqué Madame Mello, de nombreuses personnes sont touchées par les fake news en France et dans le monde entier, avec les réseaux sociaux ou Internet. En France, d'après l'Observatoire BVA, 73% des Français pensent avoir déjà lu une fake news sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et parmi ces 73%, 50 d'entre eux pensent ne pas avoir été trompés, contre 23% pensent l'avoir déjà été. Madame Mello nous a aussi indiqué qui était touché par les fake news. Nous savons que les jeunes et les moins diplômés sont les plus sensibles aux fake news. Il y a par exemple 56% des jeunes de 10 à 18 ans qui estiment ne pas savoir différencier une vraie information d'une fausse information, d'après des études menées aux USA par l'Institut Common Sense Media. Ces fake news se trouvent dans de nombreux domaines différents. En 2017, 75% de la politique présentait des fake news et 33% étaient sur l'actualité internationale, d'après Statista. Les fake news ne sont pas diffusées que par les hommes. La chronique juste avant nous l'a déjà évoqué. L'IA participe aussi beaucoup à la diffusion de fake news. Grâce à l'intelligence artificielle, le changement d'image ou de son est de plus en plus facile. De nombreuses vidéos ou images ont pu être truquées avec ça, ce qui entraîne de fausses informations beaucoup plus difficiles à savoir et à reconnaître.
Merci Justine. Nous allons maintenant vous expliquer de quelle manière vous pouvez vous protéger des fake news, c'est-à-dire de quelle manière vous devez réagir face à une fake news. Lise, je te laisse la parole.
Donc premièrement, une fake news est un mot valise qui regroupe beaucoup de mots tels que canular, qui est une blague, une farce, une fausse information, qui est la traduction mot pour mot de fake news en français, rumeur, qui est une nouvelle de source incontrôlée, propagande, qui est une action exercée sur l'opinion pour l'amener à appuyer certaines idées, souvent politiques, ou encore théorie du complot. On remarque donc qu'un grand nombre de ces mots se rapportent à un risque de désinformation ou de manipulation. Il est donc important de savoir agir face aux fake news. Il faut donc commencer par savoir les reconnaître. Mais comment ? Eh bien la réponse est simple, il faut faire fonctionner son esprit critique en se posant les questions suivantes. Quoi ? Qui ? Où ? Comment ? Ou encore combien ? Ce sont des questions similaires à la méthode des 5 W en anglais. Ces questions vous permettront de savoir à quel type d'information vous avez affaire, face aux fake news ou réelle information. Vous pouvez également aller sur des sites internet qui vérifient les adresses de sites web, les URL, comme par exemple Décodex, qui est un site internet mis en place par Le Monde. Dans un dernier temps, après avoir reconnu si l'information était véridique ou non, il faut simplement réfléchir par soi-même, c'est-à-dire prendre du recul et faire fonctionner son sens critique pour ne pas tomber dans la désinformation ou dans la manipulation.
On vous remercie toutes les trois et on remercie aussi toute l'équipe qui a travaillé sur ces chroniques et s'est mis dans la peau d'un journaliste. On remercie aussi Valentin à la technique et nos professeurs qui ont organisé ce projet. Au revoir.